Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Binge Audio.
Et maintenant, c'est l'heure des couilles sur la table. Épisode 82. Dans un vieil épisode des couilles sur la table, intitulé « Des villes viriles », basé sur les travaux de géographes féministes comme Edith Marie-Jules, l'invité nous avait ouvert les yeux sur le fait que nos villes sont construites par et surtout pour des hommes valides. Que ce qu'on prend pour neutre, normal, basique, ne pouvant pas être fait autrement, par exemple le fait que les rues portent des noms d'hommes, qu'elles laissent toute la place aux voitures, soient mal éclairées ou mal adaptées aux poussettes et aux fauteuils, ben ça contribue à faire de la ville un espace hostile aux femmes et aux minorités. Ça fonctionne un peu de la même façon pour Internet. Cet espace que nous sommes la moitié de la population mondiale à fréquenter quasi quotidiennement et qui est aussi, comme le dit souvent l'une de mes invitées, la vraie vie.
Internet, c'est la vraie vie.
Alors pourquoi et comment Internet, tel qu'il est construit aujourd'hui, favorise des comportements misogynes et antiféministes ? Pourquoi, quand on imagine un geek ou un gamer, on imagine habituellement un petit mec blanc ? On va s'aventurer, dans ces épisodes, dans les recoins malfamés de la toile, dans ce qu'on appelle la manosphère, où grouillent les incels et autres mascus. Salut Mathilde Saliou. Salut Lucie Ronfaux. Je vous tutoie car c'est un usage du milieu journalistique. On s'est croisés dans d'autres cadres que dans celui de cette interview. Et puis on a le même âge. On a l'âge des filles d'Internet, celles nées dans les années 90, qui connaissent le bruit des modems 56K, de ICQ et des Skyblog. Mathilde Saliou, tu es journaliste spécialisée dans le numérique et tu viens tout juste de signer ton premier essai, une enquête que j'ai trouvée passionnante, sourcée, divertissante et solide. Ça s'appelle « Technoféminisme, comment le numérique aggrave les inégalités », publié chez Grasset. Lucie Ronfaux, ça fait 10 ans que tu travailles sur les cultures Internet et les nouvelles technologies. Ton deuxième livre s'appelle donc « Internet aussi, c'est la vraie vie », publié aux éditions La Ville Brûle. Et on peut te lire toutes les semaines dans ta newsletter « Règle 30 » dans Numérama sur l'actualité des nouvelles technologies et de la culture web. Elle a été récompensée par le prix de la meilleure newsletter éditoriale du média au Festival de l'Infolettre. Donc, bravo, moi je la lis toutes les semaines et j'apprends à chaque fois plein de trucs.
Merci.
Ma première question, Lucie, elle est pour toi. Pourquoi elle s'appelle Règle 30, ta newsletter ?
Règle 30, c'est une référence à un vieux mème Internet. Donc, ce que j'appelle un mème, c'est des blagues récurrentes sur Internet. Et en fait, dans les années 2000-2005, on va dire, il y avait ce mythe comme quoi il y avait des règles à respecter sur Internet. Généralement, celle qu'on connaît, c'est la règle 34, qui dit que si ça existe, il y en a forcément une version pornographique. Celle-là, généralement, on la connaît. Et la règle 30, elle est moins connue. Elle dit qu'il n'y a pas de femmes sur Internet. Alors pourquoi ? En fait, c'est un peu un truc ironique qui disait, bah, si une personne prétend être une nana avec toi dans une chatroom, par exemple, bah, c'est forcément un mec qui se fout de ta gueule ou qui veut t'arnaquer. Et donc, du coup, je trouvais ça amusant de reprendre cette règle très clairement sexiste, hein, qui supposait que les femmes n'existaient pas sur Internet, et d'affirmer haut et fort que, bah non, en fait, on est plein sur Internet, on a toujours été plein sur Internet.
Merci. Mathilde, dans l'introduction de ton livre, tu expliques que tu es toujours frappée par un paradoxe 10 ans après t'être plongée dans l'étude d'Internet. Ce paradoxe, c'est que d'un côté, c'est un outil de savoir et de connexion qui permet plein de mouvements. On l'a vu aussi, MeToo, ça n'existerait pas sans Internet. Là, l'essor des podcasts féministes, il est aussi permis par Internet et la diffusion de plein de contenus d'émancipation qui répandent des savoirs progressistes, etc. D'un côté, il y a ça. Et de l'autre, ça a l'air d'être... c'est aussi le terreau de la destruction du dialogue démocratique, je te cite, du pire de la misogynie, du racisme, un artefact de contrôle et de domination sur tout ce qui colle pas à une norme patriarcale et paternaliste. tu penches, après avoir travaillé sur ton livre, là, après l'avoir écrit, tu penches plutôt de quel côté maintenant du paradoxe?
Je reste au milieu du paradoxe. Je reste convaincue qu'Internet est un bête d'outils, que tout ce que les technologies nous permettent de faire est super intéressant, efficace, permet dans certains cas de dépasser des problématiques diverses et variées. Néanmoins, je suis convaincue aussi que cette machine, cet assemblage de vastes machines et de réseaux, pendant trop longtemps, on ne s'est pas trop intéressé aux sous-cultures qu'elles pouvaient laisser se développer. Il y en a qui sont très chouettes, mais il y en a qui sont très excluantes, très violentes, très pleines de haine envers tout le monde. Et ça peut mener à divers dangers dont on va certainement parler. Par ailleurs, l'industrie elle-même construit des outils que nous utilisons désormais au quotidien, et la plupart d'entre eux... on a tendance à penser qu'ils sont plus justes, plus efficaces que nous, humains, et à plus trop interroger comment ils ont été construits. Pourtant, il faut absolument qu'on le fasse, parce qu'il arrive assez fréquemment qu'ils embarquent des biais, des problématiques discriminantes, ce genre de choses. Donc du coup, je reste sur la pointe du... je continue d'aimer, mais je continue de me méfier.
Super. Merci. On va commencer par un état des lieux des usages d'Internet. Tu l'as dit, Mathilde, on utilise Internet tous les jours. Enfin, en France, dans certains pays, il y a quand même un tiers de la population mondiale, c'est ça, qui n'a pas du tout accès à Internet, qui n'a même jamais été sur Internet de sa vie.
Oui, il faut pas... dans les pays occidentaux, Internet est quasi comme l'eau courante. Et encore, quand on parle de fracture numérique, c'est bien parce qu'il y a une toute petite partie de la population qui continue de pas avoir accès, soit par manque de connaissances et littératie numérique, on va dire, soit par manque d'accès économique à un ordinateur ou un smartphone. Mais à l'échelle de la planète, il y a encore une large part de la population qui n'a jamais été connectée. Et si elle a jamais été connectée, ça veut dire qu'elle ne participe pas à la création de contenu et aux discussions qui ont lieu en ligne. Donc, qu'elle est invisible, en fait, dans la production d'éléments en ligne.
En France, est-ce qu'on a des chiffres sur l'usage genré d'Internet? Est-ce que les hommes ont un usage différent des femmes? Enfin, est-ce que tu peux tout simplement, Lucie, nous faire un tour d'horizon des usages d'Internet en France aujourd'hui?
Bien sûr. Alors, si on prend effectivement le cas français qui est différent du cas mondial, les Français comme les Françaises vont autant sur Internet. Il n'y a pas de différence, en tout cas en termes de connexion. La dernière stat, c'est que 3 Français ou Françaises sur 4 vont sur Internet tous les jours. Ça, c'est les dernières données de Médiamétrie sur l'année 2022. Donc, en fait, en termes de déconnexion, les différences ne seront pas tant en termes de genre qu'en termes de, comme ce que disait Mathilde, en termes de ce qu'on appelle... Internet littératie, en termes d'âge, en termes de catégorie.
Internet littératie, ça veut dire, est-ce que vous... Pardon, je te coupe, mais est-ce que tu es analphabète d'Internet? Est-ce que tu as la capacité de comprendre à peu près comment naviguer sur Internet?
Oui, voilà, tout à fait. En fait, en fonction de comment on grandit, encore une fois, ça dépend de plein de choses, on peut être plus ou moins à l'aise sur Internet, on peut être aussi plus ou moins à l'aise en fonction des outils. Par exemple, il y a des gens qui ont appris à aller sur Internet via des smartphones, mais pas via des ordinateurs, et qui du coup se retrouvent par exemple dans un bureau un jour à devoir aller sur Internet sur un ordinateur et qui n'y arrivent pas. Donc voilà, ça c'est un fait. Mais du coup, ces différences de déconnexion se trouvent vraiment plutôt sur ces sujets plus que le genre. En fait, quand on prend les réseaux sociaux très généralistes, typiquement Facebook et WhatsApp, qui appartiennent tous les deux au même groupe, c'est Meta, on est peu ou prou à la parité. Autant de femmes que d'hommes vont sur Facebook et WhatsApp, ce qui ne veut pas dire qu'on va y faire les mêmes choses, mais on va autant. Et après, il y a des réseaux sociaux qui sont plus genrés, effectivement. Typiquement Pinterest, je ne sais pas si tu connais Pinterest.
Oui, parce que moi, je suis sur Internet aussi beaucoup pour collecter des trucs qui m'intéressent. Donc, oui.
Voilà, Pinterest, c'est une pratique de femme, pour le coup, vraiment très majoritairement. Je crois que c'est 80% des utilisateurs de Pinterest en France sont des utilisatrices.
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un réseau social où on peut épingler des images qui nous plaisent et les faire circuler. Mona Chollet a publié un très beau livre qui s'appelle « D'images et d'eau fraîche ». Parce qu'elle, c'est une de ses passions, la féministe Mona Chollet, de collecter des images qui lui font du bien, qui sont douces et tout. C'est vrai que c'est vraiment un réseau social reposant.
Et Twitter, c'est pas autant, mais il me semble que c'est à peu près l'inverse, 70% d'hommes et 30% de femmes.
Ouais, Discord et Twitter, c'est effectivement des exemples de réseaux sociaux qui sont beaucoup plus masculins, ce qui ne nous étonnera pas, étant toutes les trois utilisatrices de Twitter, on s'en rend vite compte.
Donc, il y a plein de gens qui n'utilisent pas Twitter. Moi, je dois régulièrement expliquer, notamment à mes amis plus vieux. Qu'est-ce qu'il y a sur Twitter, qu'est-ce qu'on y fait et tout, mais...
Twitter, c'est un paradoxe, c'est un réseau social qui est très petit mais qui a une influence démesurée par rapport à sa taille, ça c'est clair. Donc voilà, pour répondre à ta question, on va tous et toutes sur Internet, on va pas forcément dans les mêmes endroits et on n'y fait pas les mêmes choses, mais on va tous et toutes sur Internet, et ça c'est important de le préciser, parce que en fait, les clichés qui sont liés à la surconsommation d'Internet, eux, ils sont tous très masculins. Quand on parle par exemple du geek, quand on parle du gamer, ça c'est des, voilà, le petit jeu que je fais généralement quand je parle de ma newsletter, c'est de dire fermez les yeux, imaginez un geek, une personne geek. Généralement, les gens vont imaginer un jeune mec blanc avec des lunettes, quoi, pour caricaturer. Et j'insiste sur le jeune parce qu'il y a beaucoup d'agisme aussi dans nos perceptions d'Internet. Et à l'inverse, les clichés de la surconsommation d'Internet chez les femmes seront plutôt péjoratifs. Je veux dire, la geekette, on n'a pas envie de se faire traiter de geekette, c'est plutôt négatif. C'est une nana qui fait semblant de s'intéresser à Internet et l'informatique pour se faire mousser un peu auprès des mecs. Pareil pour la gamer girl.
Toi, on t'a traité de geekette ou de gamer girl, Mathilde ?
Non, mais effectivement, en fait, comme dans le monde social, hors ligne, des qualificatifs qui vont être vus, c'est le double standard, quoi. Des qualificatifs qui vont être vus comme positifs quand ils sont appliqués aux hommes, quand on les transforme en version féminine, en fait, il y a une idée de
dégradation,
de dégradation, ouais, de la personne, quoi.
Donc, il y a aussi des femmes geeks, il y a aussi des femmes qui... Enfin,
bien
évidemment.
Sûr.
Mais c'est vrai qu'on a l'impression que... Voilà, l'utilisateur expert d'Internet, c'est forcément un mec.
L'utilisateur expert d'Internet est forcément un mec. Les cultures Internet qui valent, ce sont celles des hommes, parce qu'il y a énormément de cultures Internet qui sont propres aux femmes aussi, enfin qui sont plus pratiquées par les femmes. Je pense notamment à toutes les pratiques de tout ce qu'on appelle des fandoms. Donc les fandoms, c'est les fans d'eux. Voilà, fans de manga, fans de séries télé, fans de K-pop, fans de tout ce que tu veux. Typiquement, il y a une culture Internet autour de ça qui est super riche, qui existe depuis les débuts d'Internet et qui est majoritairement féminine, dont tout le monde s'est foutu pendant très longtemps, dont on se moque encore aujourd'hui. Je veux dire, les fans de K-pop sont quand même régulièrement...
De pop coréenne.
De pop coréenne, tout à fait. Donc des groupes comme BTS, Blackpink, etc.
J'ai jamais entendu parler, j'avoue, je ne connais pas du tout.
Je vais te faire écouter
d'accord,
tout à l'heure. Okay. Mais voilà, ce que les filles font d'Internet, on considère ça comme moins intéressant, moins important. Et par ailleurs, voilà, c'est le fameux neutre masculin dont tu parles souvent. Hein, c'est-à-dire qu'on va valoriser une nana qui va s'intéresser, je ne sais pas, aux jeux vidéo traditionnels, voilà, je sais pas, Call of Duty, les trucs de guerre, les trucs associés à la culture masculine. Par contre, une nana qui va s'intéresser aux jeux vidéo de type Animal Crossing, qui est un petit jeu que moi j'adore, dans lequel on est sur une île déserte et voilà, c'est un jeu de vie, bah là, on va trouver ça moins intéressant. Donc il y a vraiment, effectivement, une inégalité dans nos perceptions de qui va sur Internet et qu'est-ce qu'on y fait, quoi.
Et des cultures Internet, c'est quoi des cultures Internet typiquement masculines, par exemple ?
Pas les jeux vidéo, pour le coup, c'est...
Oui, largement.
C'est un domaine... Combien, oui, mais... même, il faut le rappeler, la moitié,
50,
des ouais, la moitié des joueurs, c'est des joueuses.
Mais alors pourquoi on dit que les jeux vidéo, c'est un domaine
masculin ?
Parce qu'au
moment où ça a été créé, typiquement dans les années 80, c'était aussi... C'est pour ça que je vais essayer de faire souvent le lien avec la vie en ligne, parce que le monde en ligne est vraiment lié à la vie au sens large.
Ton essai, Lucie, s'appelle Internet, c'est la vraie vie. Donc
ouais. Et dans les années 80, c'est l'époque du marketing genré qui commence à débarquer partout. Années 80-90, où on se met à vendre des jouets bleus pour les garçons, des jouets roses pour les filles, tout ça. Et c'est aussi le moment où le jeu vidéo prend de son ampleur, où on vend des ordi, des consoles et des jeux avec. Et sauf que pour être sûr de ne pas faire un four commercial, parce qu'au tout début des années 80, il y a eu un espèce de crack dans l'industrie du jeu vidéo, les entreprises se mettent à marketer spécifiquement pour un segment de population qui sont les jeunes hommes blancs, enfin au sens occidentaux, parce qu'on sait qu'ils ont de l'argent ou que leurs parents en ont au minimum. Et littéralement, on leur crée une Game Boy, quoi. Enfin, la Game Boy, c'est un jeu de garçon.
T'as raison, j'avais jamais. Bah oui, c'est la Game Boy. Ouais, moi aussi j'ai eu une Game Boy, mais c'était.
Bah, pour ça, c'était
un
pas
jeu pour
toi,
les garçons.
A priori.
Ouais,
désolée.
Alors que moi, j'ai pas eu le droit à une console de jeu. Mes parents voulaient pas. Alors que mon petit frère, lui, il y a eu le droit. Voilà.
Ouais, pardon, c'était la console de mon frère.
Voilà, tu vois.
Et donc, les jeux vidéo, dès le départ, on dit « Ok, ça, c'est une culture de garçons, mais maintenant, il y a la moitié des joueurs qui sont des joueuses, en fait. »
Sauf que la culture qui s'est faite est tellement forte et a tellement, permis de créer des canons et rester, ces images des années 80-90 sont tellement restées importantes qu'on continue de considérer que ce sont des cultures masculines.
Et en fait, on a une pratique image... masculine et du coup, la culture est très masculine.
Je pense que la culture au sens large, comme disait tout à l'heure Lucie à propos d'Animal Crossing, il y a de plus en plus de choses, il y a de plus en plus de jeux moins masculins et moins bêtes et méchants, masculinité militarisée, aller tuer des gens et des zombies, qu'autrefois. Il y a même beaucoup plus de choses, mais quand on en parle, on continue d'avoir cette image très spécifique.
En fait, quand on interroge les chercheurs et les chercheuses qui se sont penchés sur cette question, parce que c'est une vraie question, hein, pourquoi est-ce qu'un hobby non genré est si genré dans nos perceptions ? C'est parce que le grand public a longtemps et méprise encore les joueurs de jeux vidéo, parce que le gaming est un loisir qui est méprisé, hein, parce que c'est un loisir jeune, parce que c'est un loisir qui est associé aux pratiques numériques, donc vu comme moins bien que lire un livre, par exemple.
D'ailleurs, tu parles de loisir et pas d'art.
Tout à fait. Alors ça, c'est encore un autre débat. Et du coup, il y a eu beaucoup d'attaques dans les années 90 sur les jeux vidéo qui rendraient fous, qui favoriseraient les tueries dans les lycées, machin. Et du coup, ça a créé un fort, fort mouvement identitaire de cette pratique culturelle auprès de ceux qui la pratiquaient. En l'occurrence, beaucoup des jeunes garçons, puisque c'était marketé pour eux. Ils sont arc-boutés sur ce loisir et toute critique contre ce loisir, contre ce passe-temps, était vue comme ce type de critique. Donc quand des féministes qui ont toujours joué aux jeux vidéo ont dit « Mais en fait, vos jeux vidéo mainstream, ils sont super sexistes », bah elles ont été complètement critiquées. Voilà, ça vient de là aussi, quoi. Mais c'est important, parce que je trouve, quand on parle du sexisme du numérique, de parler de notre propre mépris du numérique. Ces deux violences sont liées, en fait.
Dernier chiffre que j'ai lu dans ton livre, Mathilde, le fait que les femmes ont 25% de chances en moins que les hommes de connaître les usages numériques les plus courants.
C'est pour ça que je parlais de littératie numérique tout à l'heure. Donc là, c'est des chiffres à l'échelle mondiale. Il me semble que c'est des chiffres de l'ONU. Ça peut s'expliquer par différentes choses. La première, c'est on sait que les femmes ont un peu moins accès à l'éducation, ou en tout cas qu'elles sont moins à savoir lire typiquement. Donc si tu sais pas lire, tu peux pas aller sur Internet puisque tout est à l'écrit. C'est aussi lié au fait que Internet, enfin les outils numériques, il faut avoir des ressources économiques pour y accéder. Donc si on considère, et c'est le cas, qu'il y a plus de femmes qui sont dans la pauvreté que d'hommes, c'est logique qu'elles y aient moins accès. Il faut aussi, quand on a accès dans un foyer, par exemple, à un seul point de connexion, il y a une question de pouvoir, qu'est-ce qui a le droit d'aller se connecter. Donc assez vite, si on est dans un foyer à la mode patriarcale, ça va plutôt être l'homme et le chef de foyer qui aura accès. C'est aussi une dimension de contrôle, justement, de garder en tant qu'homme l'accès au smartphone ou à l'ordinateur familial et de ne pas en permettre l'accès aux autres. Et tout ça participe à expliquer que les femmes aient moins accès au monde numérique. Et accessoirement, dans les formations, pour tout plein de raisons de socialisation différenciée dont tu as parlé dans énormément d'autres éditions des Couilles sur la table, les filles vont moins vers des formations de type mathématiques et sciences dures qui peuvent permettre ensuite d'aller vers des carrières du monde numérique. Et donc, même si elles sont potentiellement très fortes pour certains usages spécifiques des cultures féminines en ligne, je ne sais pas, des choses peut-être plus liées au fandom et compagnie, en fait, elles ont souvent moins de compétences classiques, au sens peut-être du code, de la programmation, des choses qui permettent de construire des outils numériques.
Parmi les cultures différenciées qui existent entre des cultures féminines et des cultures masculines d'Internet, eh bien, il y a une pratique qui est très largement masculine, ou un domaine plutôt, se retrouve quand même en immense majorité des hommes, et en fait pas mal d'hommes, c'est ce qu'on peut appeler la manosphère. Alors, il n'y a pas de www.manosphère.com, ça n'existe pas. Mais c'est une espèce de grande nébuleuse de contenus, de comptes, de personnes qui alimentent toute une culture extrêmement misogyne, sexiste, à laquelle donc participent énormément d'hommes. Lucie, tu as signé une grande enquête dans le journal Le Monde au début de l'automne, qui s'appelle « 5 ans après MeToo, l'antiféminisme prospère sur les réseaux sociaux », où tu t'es plongée dans l'étude de cette manosphère. Et c'est pas quelque chose d'anecdotique, parce qu'en fait, si vous nous écoutez, que vous avez des jeunes garçons, par exemple, à la maison, il est très très probable qu'ils soient en contact avec tous ces contenus masculinistes sur leurs différents réseaux sociaux. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer ce qu'est la manosphère ?
Oui, alors... Ce qu'on appelle la manosphère, en fait, c'est un ensemble de communautés, au pluriel, qui prétendent défendre les hommes contre des supposées attaques. Ça, c'est vraiment le béaba, le truc le plus large possible. Alors, c'est un peu compliqué à étudier parce qu'en fait, il y a toutes ces communautés ne se revendiquent pas forcément de la manosphère, toutes n'ont pas forcément des noms, toutes les pratiques. Voilà, c'est un truc qui est assez diffus. Il y a différents angles d'attaque en fonction des communautés. Certains, par exemple, vont s'inquiéter plus du sujet de la sexualité. Donc, par exemple, en gros, pour le dire clairement, hein, je couche pas avec des femmes, pourquoi ? Ou j'arrive pas à coucher, pourquoi ? Je suis toujours puceau, pourquoi ? Va y avoir ceux qui vont plutôt s'intéresser aux questions de la parentalité. Donc là, ça va être en gros, les lois du pays dans lequel je suis sont contre les hommes et favorise les femmes et les mères. Donc ça, c'est un autre sujet. Va y avoir le célibat, va y avoir carrément ceux qui agitent une sorte de guerre des sexes. Et alors là, c'est un peu bizarre parce que c'est des mecs qui se revendiquent comme étant très très hétéros, mais qui en même temps veulent vraiment mener une guerre aux femmes. Donc, on a un peu de mal à comprendre.
La base de l'hétérosexualité.
Voilà.
Bah, clairement. Bien sûr, mais oui, c'est ça exacerbé, quoi.
Voilà. Mmh. Et donc généralement, les exemples les plus connus de cette fameuse manosphère, et donc ceux qui pour le coup revendiquent davantage leur nom, il y a d'un côté les pick-up artistes. Ça, c'est une communauté qui est assez assez connus. Donc les pick-up artistes, ce sont, ou les PUA, de leur petit surnom, ce sont les mecs qui vont prétendre donner des conseils de drague, qui sont en fait davantage des conseils de manipulation.
Ça fait l'objet du tout premier épisode des Couilles sur la table, puisque Mélanie Gourarien, anthropologue, avait étudié cette communauté des coachs en séduction et des pick-up artistes, voilà, qui existent aussi dans la vraie vie, mais qui, c'est vraiment, c'est très très largement développé avec plein de contenu maintenant sur YouTube et des podcasts spécialisés et tout, qui ciblent les mecs qui se demandent comment séduire.
Complètement. Quoi. Et ça, on en croise. L'année dernière, une petite anecdote, l'année dernière, j'étais à Châtelet, là, à Paris, et je suis tombée sur des mecs qui étaient en train de tourner une vidéo de ce type. Et en fait, eux, leur technique, c'était qu'ils faisaient tomber un truc sous la jupe d'une meuf. Et ils essayaient de récupérer le truc et de filmer sous sa jupe. Et ensuite, la nana était gênée et supposément, ça devait, j'imagine, les aider à, je sais pas, les draguer. C'est un peu absurde.
C'est une agression.
Voilà. Et en fait, moi, j'ai vu ce tournage se faire. Donc, je suis allée leur gueuler dessus. Ça s'est pas très bien passé pour eux comme pour moi. Mais voilà. Donc, c'est un vrai truc, quoi, qui existe. Donc, ça, c'est les PUA. Après, il y a les incels, pour le coup, dont, voilà, Mathilde parle beaucoup dans son bouquin. Donc, les incels, les célibataires involontaires. Fun fact, pas très drôle. Le mouvement incel a été créé par une femme à l'origine, enfin, au tout début, c'était une nana qui voulait parler du fait qu'elle était célibataire de longue date, elle comprenait pas pourquoi, et ce truc lui a complètement échappé, et c'est devenu voilà, c'est ces mecs qui sont célibataires de longue date et qui le reprochent aux femmes, voilà, qui disent que c'est la société qui les empêche de coucher, que les femmes, elles ont changé, que etc. Donc, j'avais interrogé pas mal d'historiennes des féminismes pour mon article, parce que voilà, je me demandais, est-ce que c'est nouveau ces trucs, est-ce qu'on s'inquiète d'un truc voilà, qui en fait aurait toujours existé et qui s'exprime juste différemment du fait des réseaux sociaux. Florence Rosfort, qui est historienne des féminismes, m'avait dit un truc qui m'avait pas mal marqué. Elle me disait, en fait, l'antiféminisme, il a toujours existé. À partir du moment où il y a eu des revendications féministes, il y a toujours eu des hommes pour les critiquer, les attaquer, les violenter, etc. Ce qui est assez nouveau avec cette montée du masculinisme en ligne, c'est que là, on n'est pas tant sur des critiques des féministes, on est sur des critiques des femmes tout court et un dénigrement des femmes. C'est-à-dire qu'on est dans une exaltation de la virilité, une exaltation du masculin. Et l'idée, c'est pas tant de dire les féministes, c'est des connasses, c'est vraiment les femmes nous sont inférieures. Et les femmes méritent d'être rabaissées constamment. Et ça, c'est vraiment ce qui s'exprime en fait dans cette fameuse manosphère.
Oui, quoique ça paraît quand même pas très très nouveau, cette misogynie-là, qui est à la fois l'antiféminisme, donc contre les féministes, mais aussi la haine des femmes en général, quoi.
En fait, c'est plutôt le fait que ça soit revendiqué, qu'il y ait une culture autour de ça. Le fait que les hommes méprisent les femmes de tout temps, de tout
histoire,
temps.
Histoire du monde, bien sûr.
Mais là, on est vraiment sur une revendication et sur une théorisation de ce truc qui est vraiment revendiquée.
Une réunion et une organisation. Enfin, jamais on a eu des groupes d'une telle ampleur, en fait. Et ça, c'est la magie d'Internet pour pousser des mouvements comme MeToo, mais aussi pour pousser des mouvements haineux, en fait. On peut faire des liens d'un pays à l'autre. Et s'entraîner les uns les autres dans la violence, tu vois.
Quoique je repense à Eliane Viennot, qui est historienne notamment de la Renaissance, et qui, ici, à ce micro, expliquait comment, au XIIIe siècle, il y avait des tas de clercs à l'université qui, un de leurs passe-temps favoris, c'était vitupérer les femmes. Ils appellent ça la vitupération des femmes, et donc ils passaient leur temps à écrire des traités, des textes, des blagues, enfin, vraiment une vraie culture misogyne, en fait, pour dénigrer les femmes, expliquer qu'elles étaient dégoûtantes, inférieures, complètement stupides et tout, pour justifier leur exclusion de l'université. Mais disons, oui, Internet permet de fédérer des hommes misogynes
à une ampleur a priori inégalée. Mais oui, c'est peut-être juste le retour de ce que tu décris dans une version 2.0, un peu catastrophique.
Car si ça existe dans la vraie vie, ça existe sur Internet.
Exactement. Et puis on mettra en pouvoir, hein, parce que Donald Trump est le héros complet de la manosphère, revendiquer complètement cette influence de la manosphère, des incels, enfin, pas des incels, mais en tout cas de la manosphère. Pareil pour Bolsonaro, enfin,
ou Zemmour.
Ça a des conséquences vraiment aussi dans nos vies politiques, dans ce qu'on a pu appeler la vraie vie, même si Internet...
Parce qu'Internet, c'est la vraie vie.
Oui, mais comment t'appelles la vraie vie maintenant ?
La vie physique.
Ah non, la vie physique, très bien.
Okay. Vie physique, vie numérique.
Ouais. Ok. Mathilde, tu connais bien une partie de la manosphère, puisque pour ton livre, tu as passé beaucoup de temps sur un forum spécialisé, ou un... Comment on appelle ça ?
Un subreddit.
Un subreddit. Bon, Reddit... qui est donc... En fait, moi, j'ai jamais passé trop de temps sur Reddit.
Je vois de loin. Qui héberge des forums.
C'est un énorme machin.
Oui, c'est une plateforme...
Plutôt anglophone. Qui héberge plein de...
Sous-forums.
De sous-forums. Donc, il y a un forum sur Reddit qui s'appelle The Red Pill.
Qui y est désormais, depuis un certain temps quand même, en quarantaine, c'est-à-dire qu'il est un peu plus dur d'y entrer. Il y a des messages de « attention, c'est catastrophique ce sur quoi vous allez tomber », tout ça. Mais The Red Pill, c'est un des multiples forums qui ont servi à se rassembler, alors à la fois pour discuter de notre détestation des femmes, si jamais on en fait partie et qu'on est d'accord avec les idées qui y traînent, et ensuite pour donner un tour plus politique et donc plus en lien avec... c'est pas avec la vraie vie, parce que c'est déjà la vraie vie de détester les femmes et de potentiellement se pousser à les agresser, mais peut-être plus en lien avec la vie sociale et la vie politique, puisqu'on les a vus s'organiser et participer à la promotion de ce qu'on a appelé l'alt-right, enfin la nouvelle extrême droite américaine, quoi, et à terme à la promotion de Donald Trump, et ils ont clairement participé à créer énormément de contenu internet. C'est pour ça que c'est important cette dimension de culture dont Lucie parle à chaque fois, parce que vraiment ça finit par inonder nos imaginaires sans même qu'on s'en rende compte. Donc eux, par exemple, ils ont créé plein de mèmes, donc encore une fois, ces blagues récurrentes. Ils ont pris des morceaux de films que tout le monde connaît pour mettre des messages sexistes, racistes, pro-Trump et compagnie, et pour appeler à aller voter Trump. Et ça, c'est allé inonder plein d'autres endroits, peut-être plus mainstream, plus grand public. Et en fait, donc, les membres de ce sous-forum ont participé, à mon sens, et au sens de pas mal de chercheurs d'ailleurs, à promouvoir Trump et potentiellement à terme à le porter au pouvoir.
Mais The Red Pill, c'était aussi un truc pour les incels, parce qu'on n'a pas expliqué en détail ce que c'est les incels. T'en parles beaucoup, toi, dans ton livre. Rappelons quand même qu'il y a les attentats. Il y a des attentats masculinistes qui tuent de vraies personnes, des femmes qui sont perpétrées par des incels, des mecs qui ont traîné beaucoup sur ces forums.
Donc les incels, c'est ces soi-disant et autoproclamés célibataires involontaires qui considèrent que les femmes leur doivent de la sexualité dans une vision très hétérosexuelle, hétérocentrée de la vie.
Oui, parce qu'ils ne cherchent jamais à coucher entre eux. C'est
non,
ils devraient, franchement.
Ils pourraient, hein, au final. Parce que, en fait, donc, je fais des blagues. Mais d'ailleurs, tu as participé à expliquer ça dans les premiers épisodes des Couilles sur la table. Le côté, quand on critique des femmes et qu'on les agresse, c'est parfois pour se reconnaître entre hommes,
oui,
se donner
de
la crédibilité, pour
sûr.
Se valoriser les uns aux autres. C'est exactement ça qui se passe dans ces forums-là. Ça se voit, en fait. Enfin, ils utilisent, par exemple, l'agression et la moquerie de femmes pour dire, regardez, j'ai réussi, si jamais on parle d'une dimension d'exposition, par exemple, de photos intimes d'une jeune fille, pour dire aux autres, regardez, j'ai réussi à choper ces photos, regardez, j'ai réussi à agresser cette jeune fille, et les autres, ils vont être là, genre, ah ouais, trop stylé, ils vont donner des notes à la fille, ils vont dire bravo au gars qui a réussi à récupérer l'image, et c'est vraiment un espèce de truc de socialisation, terrible pour les personnes qui en sont victimes, mais pour eux, en fait, le problème, c'est même pas la victime, c'est juste entre eux qu'ils puissent se donner des tapes dans le dos et se dire « Ah, bravo les gars
!» Mais eux, ils pensent qu'ils sont victimes.
Ouais.
Ça, c'est très important.
Bah, je sais. Alors, pour la partie socialisation, je sais pas si c'est important qu'ils se pensent victimes. Là, juste, je vous l'ai expliqué, et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans d'autres milieux de la manosphère et ailleurs. Cette dimension de, en fait, leurs actes d'agression sur les femmes... C'est juste un proxy, en fait. C'est un prétexte, et le but, c'est de se faire mousser les uns par rapport aux autres. Donc là, c'est pour la partie okay. socialisation, et super, on est tous potes dans notre haine. Le problème, c'est qu'effectivement, ce qu'ils utilisent pour se faire mousser les uns les autres, c'est des choses très violentes, et qu'il y a toujours, dans ces contextes déjà pas très progressistes, des gens plus radicaux que d'autres, qui potentiellement vont de plus en plus pousser leurs idéologies néfastes, haineuses, etc., et au point, quelquefois, d'aller jusqu'à commettre des actes hors ligne. Plusieurs actes hors ligne qui ont fait la une des journaux, et qui ont pu être reconnus relativement vite comme des actes masculinistes. Ça va être des attentats, par exemple, comme celui de Elliot Rodgers dans une université américaine, ou celui de Alec Minassian à Toronto, qui a lancé une camionnette dans une des rues les plus passantes de la ville et qui a tué plein de gens. On sait que c'est masculiniste parce qu'ils ont laissé des contenus, que ce soit des textes ou pour Elliot Rodgers des vidéos où ils expliquent qu'ils vont tuer des gens parce que
Ils veulent tuer des femmes. Ouais.
Il dit, Elliot Rodgers, il dit un truc du genre, vous avez jamais voulu me reconnaître pour le gentleman que je suis, quel gentleman. Du coup, je vais vous trucider. Enfin, en gros, c'est ça le sens de son message. Il y a aussi des attentats dont on sait quand on se penche sur le sujet qu'ils ont des liens avec les sphères masculinistes, mais qui sont pas forcément présentées comme telles. Donc, typiquement, l'attentat qui a eu lieu à Halle en Allemagne en 2019, me semble-t-il. On sait que son auteur, il a notamment traîné dans les mouvances masculinistes et qu'il a des idées très sexistes. Mais comme, en fait, des chercheuses comme Christine Barr expliquent qu'il existe une intersectionnalité des haines de la même manière qu'il existe une intersectionnalité des discriminations, on s'est plus focalisé, en tant que média en tout cas, sur le fait que c'était un attentat raciste. Non pas du tout, mon but n'est vraiment pas de faire une hiérarchie, mais juste de bien faire prendre conscience que la misogynie aussi peut mener à ces violences extrêmes, en fait.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En France aussi, il y a toute une mouvance masculiniste d'extrême droite. Bon, moi, je les regarde de temps en temps, hein, pour savoir où est-ce qu'ils en sont, les uns les autres. Donc, il y a Raptor Dissident, par exemple, qui existe depuis un moment, qui prétend faire une analyse sans concession de l'actualité. Aussi, il donne des cours de muscu.
Oui. Alors, justement, c'est bien que tu parles de ça, parce que je pense qu'on a cette image de la manosphère et des mascus comme étant un peu planqués dans des petits forums malfamés. Et ça existe, hein, je veux dire, il y a ce truc...
J'adore qu'il y ait des forums malfamés. Oui, bien sûr, c'est comme en ville, il y a des bars malfamés.
Oui, voilà.
Sur Internet aussi, il y a des recoins et tout, quoi.
Il y a des lieux clos, ou en tout cas moins connus du grand public, dans lesquels ils vont s'organiser, discuter, etc. Je pense qu'en France, on a été aussi beaucoup marqué par l'affaire jeuxvideo.com, où la journaliste Nadia Adam, en 2017, a fait l'objet d'un... Et pas que Nadia Adam, mais ça a été la principale victime, a fait l'objet d'un cyberharcèlement assez effroyable venant des forums de jeuxvideo.com. Cela étant dit, il faut insister sur le fait que ce masculinisme, ce sexisme, cette misogynie s'exprime aussi et de plus en plus sur des réseaux sociaux tout à fait grand public, notamment parce que le but c'est aussi de convertir déjà des jeunes garçons mais aussi des jeunes filles à ces vues-là, et puis aussi parce que voilà, ces contenus existent aussi ailleurs. L'organisation britannique Center for Countering Digital Hate, qui fin 2022 a fait une grosse étude sur les incels et qui justement s'interrogeait un petit peu sur d'où ils venaient, où ils s'exprimaient. Et eux, en fait, leur étude a démontré que là où s'exprimait le plus cette fameuse communauté qu'ils ont étudiée, c'était YouTube, Reddit, Twitter et TikTok. Donc clairement, on n'était pas du tout... Enfin, il y avait leur petit forum, mais ensuite, le but, c'était de sortir de ce forum pour sortir leur discours et les faire venir auprès d'un autre public.
Et de la même manière qu'ils utilisent des réseaux grand public, ils utilisent des thématiques qui n'ont l'air de rien. Enfin, ils utilisent beaucoup les thématiques du développement personnel, en fait. Donc typiquement, t'es un jeune garçon, tu te sens mal dans ta peau et tu vois ce type qui dit « Tiens, je vais te donner des conseils pour que tu deviennes hyper charismatique, hyper riche en 2 minutes et hyper stylé. » Bah évidemment que tu cliques. Enfin, moi aussi, je cliquerais quand c'est présenté comme ça. Et il y a une journaliste américaine dont je suis en train de perdre le nom, Brianna Todd, je crois, qui, elle, développe une... dans un de ces épisodes, l'idée qu'en fait, c'est tous des... Enfin, en particulier, des profils comme Andrew Tate, par exemple, qui actuellement est en prison en Roumanie pour trafic d'êtres humains et viol, que c'est un archétype de scam artiste. Donc ça, c'est le terme anglais pour dire, en gros, il est en haut d'une pyramide d'arnaque. Et en fait, c'est que ces hommes-là se font, en tout cas une partie, énormément d'argent sur le dos de pauvres garçons qui se sentent mal. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'ils vendent souvent, notamment dans les communautés pick-up artistes, des formations à des prix... faramineux pour des adolescents, en tout cas, enfin, il me semble.
Julien Rochdy, par exemple, ancien président du Front National des Jeunes, vend des... Alors lui a fondé une école pour apprendre à être un homme, un vrai, et vend ça très cher, ouais.
Sur les cours de muscu de Raptor Dissident, c'est pareil, c'est pour se faire de l'argent, hein.
Et alors, par ailleurs, je trouve que la difficulté d'étudier le sexisme en ligne, c'est que donc il y a ces exemples qui sont effectivement extrêmement choquants et il faut s'en inquiéter. Hein, je veux dire, un mec comme Andrew Tate qui dit que les femmes méritent d'être violées, c'est extrêmement choquant, à raison.
Oui, parce qu'on est passé un peu vite sur le nom d'Andrew Tate, mais juste contexte, Andrew Tate, c'est un ancien champion de kickboxing.
Oui, anglais, oui.
Très grand, très musclé, enfin bon, un athlète là, ou un ancien athlète, et qui est devenu très très populaire en tenant des propos d'une violence et d'une misogynie extrême, mais aussi effectivement en jouant sur ce côté, enfin, moi je suis un homme, un vrai quoi, regardez comme je suis riche, comme je suis fort, comme j'ai des femmes, des voitures, enfin toute la panoplie de la virilité traditionnelle, très très exagérée.
Et comme c'est extrêmement séduisant, même s'il se fait déplatformer, parce que pendant un temps par exemple il a été privé de Twitter jusqu'à ce que Elon Musk le remette en ligne, ce serait un autre débat à soulever. Même quand il n'est plus en ligne, comme il a eu plein de succès et qu'il a diffusé plein de cours à plein de jeunes garçons, son contenu reste et continue de tourner sur TikTok, Twitter et où tu veux.
Et vraiment, il dit des trucs extrêmement violents et misogynes et tout.
Revendiqués, etc. Ouais. Donc ça, c'est clair que ça existe. Par ailleurs, moi, j'aimerais insister sur le fait qu'il y a aussi toute une zone grise du sexisme en ligne. Le sexisme en ligne n'est pas toujours revendiqué de cette manière, n'est pas toujours aussi clair. Il y a un truc qui est un peu, à la fois que je trouve génial et compliqué sur Internet, c'est que c'est un endroit qui n'est pas toujours très sérieux. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'ironie. Mathilde et moi, on n'aime pas ce mot, mais certains vont parler de trolling. Donc le trolling, c'est cet acte en ligne, le fait de faire exprès de tenir des propos gênants ou outranciers auprès d'une personne pour l'énerver.
Ou de pourrir un fil de discussion.
Ouais, voilà.
Avec l'idée qu'on est des trolls, donc en fait, c'est personnages mythologiques énormes et pataux.
Voilà.
Comme il y en a dans plein de fictions, de fantasy.
C'est un truc imaginaire, ouais, tout à fait.
Mais avec l'idée que c'est vraiment. C'est des teubés. Enfin, les trolls, c'est vraiment des grosses créatures encombrantes qui font beaucoup de mal, et donc c'est pour ça que ça s'appelle des trolls aussi en ligne.
Ouais. Et donc, ça, c'est un élément très important de la culture internet des années 2000. Voilà, le trolling, c'était marrant, etc. Aujourd'hui, en tout cas, c'est mon opinion personnelle. Pour moi, ce fameux de troll, il nous a fait beaucoup de mal parce que je pense qu'il sert souvent d'excuse à des vraies violences. Et surtout, ça brouille complètement le message parce que si vous êtes une personne qui, moi, je suis sur internet depuis mes 12 ans et je suis beaucoup trop et j'ai cette grammaire internet, tout le monde ne l'a pas, ce qui est normal. Et il y a des contenus sexistes qui n'en ont pas l'air. Et je pense qu'il y a des personnes à qui on va montrer du Andrew Tate qui vont être très choqués, mais qui par contre vont partager un mème sexiste, qui vont par exemple se foutre de la gueule d'une influenceuse parce que tout le monde se fout de sa gueule, qui vont partager un mème en faveur de Johnny Depp, on va parler de l'affaire Depp Heard tout à l'heure. Donc c'est ça qui rend compliqué aussi l'étude du sexisme en ligne, c'est que il y a cette extrême violence et puis après ça irrigue en fait. Et il y a plein d'autres contenus dont on se rend pas compte en fait qu'il est sexiste. Et moi j'ai plein de mecs que j'ai déjà rencontrés qui disent non, moi je suis pas masculin, je suis pas sexiste, je suis pas machin, et qui juste après vont participer à ce genre de choses quoi.
On va raconter qu'est-ce que c'est le voilà, comment on est tous, c'est un des articles que tu avais écrit, comment on est les harceleurs, c'est aussi nous en fait.
Ouais, on fait partie de cette machine, ouais.
Mathilde,
enfin nous du coup puisqu'on étudie, on sait que par exemple le raptor c'est pas un mec hyper fréquentable, mais anecdote personnelle, il m'est arrivé d'avoir un stagiaire qui cite une vidéo du raptor comme source et il dit mais ça va, on peut tout à fait aller regarder ses sources à lui et exercer notre esprit critique et s'en servir comme base de travail. Et en fait, enfin, il y a toute une dimension comme ça. Si t'es une jeune personne et que t'as pas encore fait les mêmes études que nous, en plus nous avec Lucie, effectivement, on s'est vraiment spécialisé dans ces questions-là sur le croisement entre sexisme et numérique. Évidemment que certaines vidéos peuvent juste paraître comme d'autres vidéos YouTube, comme d'autres éléments de loisirs qu'on consomme au quotidien sur Internet. Et effectivement, c'est difficile de trier. Mais pour moi, c'est des logiques assez similaires à celles que nous posent toutes les questions de fausses informations, désinformations. On a besoin, pour lutter contre tout ça, à la fois la désinformation au sens large et la désinformation misogyne, si je puis l'appeler comme ça, plus particulièrement, on a besoin d'exercer notre esprit critique et peut-être de s'enseigner plus l'esprit critique en ligne, de vulgariser plus certaines logiques récurrentes, donc y compris de promotion de contenu de faible valeur, ce genre de choses.
Et par ailleurs, j'ajouterais peut-être pour compléter, là on parle de la misogynie, du sexisme d'une manière assez globale. Il faut insister que comme dans cette fameuse vie physique, le sexisme, il y a 50 nuances de sexisme en fonction de quel groupe minorité vous faites partie. Quand on parle de transphobie en ligne, on parle de sexisme. Quand on parle de racisme en ligne, on parle de sexisme. Quand on parle de handiphobie, on parle de sexisme. Enfin, il y a aussi toutes ces nuances de sexisme qui peuvent être difficiles à repérer, mais qui sont importantes aussi à mentionner, quoi.
Tu penses à quoi, par exemple ?
Actuellement, moi, ce qui me préoccupe beaucoup, honnêtement, c'est la transphobie en ligne.
Ouais,
moi,
sûr.
C'est vraiment un sujet qui me fait vraiment flipper parce que je vois des personnes qui se revendiquent du féminisme tenir des propos violemment transphobes. Et moi, c'est mon intime conviction, le féminisme n'avance pas sans les personnes trans ou sans les...
Pareil, bien sûr.
Donc voilà, il faut le dire très clairement. Et tout ce qui est, on appelle ça les TERF ou le TERFisme. Donc, c'est les...
Radical Feminists. Féministes radicales qui excluent les trans.
Voilà, en français. Exactement. Pour moi, ça, c'est un bon exemple de ces outils d'Internet qui sont excluants et qui vont favoriser le harcèlement, qui vont être utilisés contre une catégorie de femmes et de personnes minorisées, qui sont en l'occurrence les femmes trans et autres personnes trans et non-binaires. Quoi.
Juste pour raccrocher avec toute la sphère masculine et la manosphère, sans citer de nom, il y a des activistes dont le sujet de spécialité et dont les discours sont sans arrêt autour des personnes trans, qui frayent allègrement avec tout un tas d'influenceurs et de producteurs de contenu masculiniste.
Complètement.
Et qui voient pas où est le problème.
Et quand elles utilisent les pratiques du name pour faire shamer et pour lancer des meutes numériques sur les personnes qu'elles visent, le cyberharcèlement, on en reparlera peut-être, mais ça a des impacts très réels dans la vie des victimes et ça rajoute des difficultés sur des personnes qui sont déjà au croisement de plusieurs discriminations et qui, a priori, ont déjà des problèmes à gérer hors ligne. Donc,
On va reparler du cyberharcèlement, mais je voudrais juste qu'on revienne un tout petit peu sur les trolls. Lucie, t'as écrit un article qui s'appelle « Les trolls sont-ils tous des hommes ?» Réponse, oui.
Globalement, ouais. Moi, donc c'était un numéro de ma newsletter que j'avais écrit à l'occasion de la publication d'un documentaire sur les trolls qui était passé sur Arte, dont le nom, je crois que le nom c'était Troll,
oui,
tout simplement.
Oui, juste Troll, de Troll. Alexandre Pierrin.
Voilà. Et moi, c'est un documentaire qui m'avait honnêtement... pas un peu embêté, vraiment qui m'avait embêté.
Après, le point de départ était assez génial. Enfin, je m'étais dit, ah oui, c'est vrai, c'est une bonne idée d'aller faire ça. En gros, il s'était dit, des trolls, on en voit partout dans les commentaires, sous les articles de journaux, par exemple. Il y a toujours des gens qui se disent, mais qui prend le temps pour écrire des trucs pareils? Qui fait ça? Enfin, la question de qui sont les trolls. Et donc, il s'était dit, je vais aller en rencontrer dans la vraie vie. Donc, il en avait trouvé 5, il les avait interrogés. Il n'avait pas trouvé 2 femmes.
Hein. Et voilà, et justement, ouais. Et qui sont les trolls? La réponse, c'est des mecs, hein, parce que les 5 personnes qu'il a trouvées, c'était des garçons. Par ailleurs, il avait dit, le réalisateur avait bien dit en interview qu'il avait cherché volontairement une troll femme qu'il n'en avait pas trouvé. Et donc ça, c'est intéressant parce que quand on parle des clichés de la masculinité, est-ce que le fait de vouloir à tout prix perturber les discussions et encore une fois s'adonner à des violences, est-ce que c'est pas un trait assez masculin, quoi? Parce que j'insiste là-dessus, les trolls sont les trolls d'aujourd'hui, les gens qui se revendiquent du trollisme, souvent c'est vraiment une excuse pour ne pas dire qu'ils harcèlent.
Oui, c'est toute la nuance comme dans la vie physique, on dit ah bon, mais c'est une blague, et en fait on sait bien que l'humour, ou ce qui est nommé humour, ça sert très souvent à masquer des violences.
Au grand minimum, c'est des grands lourds, quoi. Enfin, moi actuellement, sur mes articles, ça m'arrive quelquefois d'avoir des gars qui reviennent genre 12 fois pour poster des messages qui font absolument pas avancer le chemin public. C'est lourd et ça pourrit la discussion, et même les autres lecteurs, ça les saoule. Donc,
c'est ça leur but. Donc c'est comme des enfants. Je sais pas la comparaison. Pourquoi ils font ça?
Alors c'est une bonne question. Moi j'ai un exemple qui est assez bizarre, mais qui je pense est assez symptomatique de ce dont on parle. À un moment, j'ai découvert qu'il y avait un gars qui avait fait un montage avec la photo de mon profil Twitter, qui était tout à fait un truc de troll, dans le sens où c'était une esthétique. Il y avait ma photo, il y avait genre un arc-en-ciel, des dauphins, c'était un truc un peu ridicule. Et c'était écrit un truc du genre vive la grosse chatte poilue de Lucie Ronfaux, voilà. Et c'était censé être un truc ironique, drôle, bizarre, parce que justement, ça correspondait complètement au canon esthétique de la culture internet. Moi, je l'ai reconnu, hein, j'ai vu ce truc, j'ai eu un petit... parce que c'était tellement absurde. N'empêche que, en fait, quand on y réfléchit, c'est pas très drôle, quoi.
Ah non, franchement, non.
Ma chatte poilue ne regarde que moi, quoi. Donc c'est vraiment, ça m'a... Et voilà, et donc c'est pour ça que moi, les trolls, c'est un sujet qui m'emmerde, parce que je pense qu'ils ont été très importants dans notre culture Internet. Je pense qu'aujourd'hui, qu'Internet est un lieu dans lequel on est tous et toutes, cette culture n'a plus lieu d'être, et cette culture, encore une fois, sert d'excuse à des violences.
On a eu un exemple lors du procès des cyberharceleurs, des harceleurs de Nadia Dam. Donc je rappelle que c'est quand même une affaire très très grave, hein, puisque ils l'ont menacée de mort, ils l'ont harcelée pendant des mois et des mois. Sa fille, elle a dû déménager 3 fois. Enfin, c'est vraiment un cauchemar, en fait, et vraiment quelque chose d'extrêmement violent. Ils ont été, ça c'est assez rare, traduits devant la justice, parce que bien sûr il y en a énormément qui ont participé aussi à un harcèlement, mais il n'y en a qu'une petite poignée qui a été traduite devant la justice, et l'un d'entre eux avait déclaré lors du procès « mais j'avais juste envie de troller ». Voilà.
Mais c'est hyper fréquent, les rares. Il n'y a pas du tout assez de personnes dans les cas, gros cas de cyberharcèlement qui ont posé des problèmes dans la vie réelle des victimes. Il n'y a malheureusement pas du tout assez de personnes qui sont traduites en justice, parce que c'est impossible pour diverses raisons qu'on pourrait expliquer. Mais quand ils se retrouvent devant la justice et qu'il y a des articles de presse, jamais les gens n'ont conscience de ce qu'ils ont fait, en fait. Enfin, on n'arrive pas du tout. C'est pour ça qu'il y a une question aussi d'éducation, à mon sens, à la responsabilité qu'on a en ligne, en fait. On n'a jamais appris, on n'a pas du tout transféré en ligne les règles de bienséance qu'on applique hors ligne. Et pourquoi ?
Bah parce que moi, je trouve qu'en fait, on paye encore ce mépris qu'on a d'Internet. En fait, on nous a tellement dit qu'Internet, c'était moins important, qu'Internet, ce qu'on y faisait, c'était, voilà, c'était Internet, et c'était pas comme dans la vraie vie, entre guillemets. Bah, du coup, on a toute une génération de personnes, enfin, pas qu'une génération, parce que c'est pas des jeunes, hein, y a aussi des personnes plus âgées qui font n'importe quoi en ligne, évidemment. On a plein de personnes qui ne feraient pas ce genre de choses dans la vie physique et qui le font dans la vie numérique.
Donc, le fait de se permettre d'aller insulter quelqu'un parce qu'on n'est pas content de son message, juste parce qu'on n'est pas content de sa tête, jamais on ferait ça hors ligne. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Et pourtant, là, les gens se permettent de sortir une haine et une violence sur les autres. Alors, on a expliqué, enfin, il y a plein d'explications sur, ouais, comme on est derrière l'écran, on ne se rend pas compte que c'est un humain, etc. Mais si on pouvait juste respirer 5 secondes quand il y a un message qui nous énerve et justement se dire, la personne qui l'a posté est une personne humaine et je n'aimerais pas me prendre l'insulte que je vais lui envoyer, peut-être que déjà, ça participerait à ralentir un petit peu la violence.
Parce que le cyberharcèlement en ligne, c'est vraiment quelque chose de très très répandu, qui prend plein de formes différentes, mais qui sert quand même énormément à museler les femmes, en particulier les minorités et les féministes. Pour mesurer le phénomène, il y a des chiffres qui existent. Il y a notamment la première étude vraiment sérieuse qui a été faite sur le cyberharcèlement. Alors que bon, ça fait des décennies que Internet existe, mais il y a une étude Ipsos qui a été faite sur le cyberharcèlement. Lucie, est-ce que tu peux nous en parler ?
Ouais, alors c'est une étude qui est sortie en 2022, réalisée pour le compte de Féministes contre le cyberharcèlement, qui est une super asso qui parle donc de cyberharcèlement avec un point de vue féministe. Et ce qui est intéressant quand on regarde ce cyberharcèlement, c'est que bon, déjà on se rend compte que, mais on s'en doutait, que c'est un fait de société et que ça concerne beaucoup de personnes. Ce qui m'a frappé en fait dans cette étude, c'est que en fait le cyberharcèlement, ça concerne aussi les hommes. Quand on regarde les stats, en fait, quand on a plus de 35 ans, on a autant de risques, quand on est un homme ou une femme, de se faire cyberharceler. Et étonnamment, quand on a moins de 35 ans, plus de jeunes hommes déclarent avoir subi une cyberviolence que de jeunes femmes. La stat, c'est 85% des jeunes hommes interrogés indiquent avoir été cyberharcelés et 65% de jeunes femmes. Alors, ça veut pas dire, je suis pas en train de dire, en fait, les femmes se plaignent, mais elles ont pas raison. En fait, le cyberharcèlement qu'on va subir en tant qu'homme et en tant que femme va être différent. Cette surreprésentation des hommes chez les jeunes hommes dans les cyberviolences, ça s'explique en partie parce que quand on regarde les trois plateformes où il y a le plus de déclarations de cyberviolence, c'est Discord, Steam et Twitch. Alors pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, Discord, c'est une plateforme de discussion en ligne. On peut un peu créer des chatrooms pour ses potes ou d'autres choses, et c'est un truc qui est très très utilisé dans le milieu du gaming. Steam, c'est un site dans lequel on peut acheter des jeux vidéo, donc on retrouve le gaming encore une fois. Et trois, Twitch.
Ouais, encore un peu.
je vous laisse deviner. Twitch, c'est une plateforme où on peut se filmer en direct, et ça notamment était d'abord un truc conçu pour les gamers et les gameuses. Donc on se rend bien compte, on parlait tout à l'heure de l'identité de gamer et à quel point elle était malheureusement liée à pas mal de violences, là, on se rend bien compte que cette violence, elle se retourne aussi contre ses propres gamers, quoi. Donc, il y a ce truc-là, hein, l'identité de geek, les violences et ce qu'il faut interroger. Par ailleurs, quand on parle par contre des violences subies par les femmes, on se rend compte que ces violences sont de nature très différente, notamment parce que les violences subies par les femmes sont quasiment systématiquement liées à leur genre et leur sexualité. Un mec va se faire traiter de connard, va peut-être recevoir une menace de mort, genre je vais te fumer ou je sais pas quoi, enfin ce genre d'insulte un peu stupide, enfin très stupide. Les femmes, systématiquement, ça va être t'es grosse, t'es moche, je vais violer ta fille, vraiment c'est on est tout de suite dans ce registre-là, on est tout de suite dans la déshumanisation, on est tout de suite dans le très concret aussi, parce que quand on se fait cyberharceler en tant que femme, si on a une photo de soi sur Internet, on peut être sûr que cette photo va être réutilisée.
Réutilisée notamment dans des images pornographiques,
Ou même, alors pornographique ou même de manière très basique. Moi, par exemple, tout début de journaliste, j'ai été prise pour cible par un type que je ne citerai pas parce qu'il n'a pas besoin de pub. Et il a organisé un concours de, je cite, montage hardcore avec ma photo Twitter. Et il y avait des gars, ils sont contentés d'ouvrir un fichier Paint et de dessiner du sperme sur moi avec le stylo blanc de Paint, quoi. Donc ça peut être bête et méchant, mais n'empêche que tout de suite, c'est ça, en fait. Un montage hardcore d'une meuf, ça va être le sujet de la sexualité. Donc ce cyberharcèlement, il est très spécifique. Et surtout, le cyberharcèlement que vont subir les femmes va plus souvent être dans le cadre d'un effet de meute, et notamment ça c'est un vrai problème pour les femmes publiques. Quand on parle de femmes publiques, on parle pas forcément de superstars ou même que de femmes politiques. En fait, il suffit d'avoir un petit peu d'audience sur Internet pour être pris pour cible. Parce qu'en fait, l'objet de cette violence, c'est pas de se battre, c'est de faire disparaître. C'est vraiment de faire disparaître. C'est que de faire disparaître ces voix féminines sur Internet.
Et qu'on ait toutes peur.
Oui, pour moi, c'est des attaques directes sur la liberté d'expression. C'est pour ça qu'on est actuellement en mars 2023. Il y a 6 mois, un peu moins, Elon Musk a repris la tête de Twitter en clamant sur tous les toits qu'en reprenant la direction de cette plateforme, il allait sauver la liberté d'expression et permettre à tout le monde de parler et mettre fin à la censure. De fait, quand il a remis en ligne plusieurs des comptes qui avaient été mis hors ligne et qui étaient principalement des comptes de suprémacistes blancs, d'agresseurs misogynes, dont le fameux Andrew Tate dont on parlait tout à l'heure, et aussi d'usines à désinformation. Ce qu'il fait, c'est qu'il remet une forme de violence qui avait été un peu adoucie par leur absence en ligne, et donc qu'il agresse, à mon sens, la liberté d'expression des personnes qui vont se prendre les volets de cyberharcèlement qui seront lancés et initiés par ces comptes.
Ah oui, parce que ce que ça a quand même comme effet, c'est que ça fait disparaître ces voix-là. En fait, ils y arrivent.
Oui, oui, il y a une étude d'Amnesty qui détaillait que trois victimes, ils avaient parlé qu'avec des femmes victimes de cyberviolence. 2 victimes sur 3 modifiaient leur discours, modifiaient leurs pratiques. Donc déjà, elles adoptaient, si on comparait à hors ligne, elles se mettaient un peu à raser les murs pour éviter d'attirer l'agresseur. Et 1 sur 3, je crois, arrêtaient complètement de poster. Donc en soi, ils y arrivent. Il y a une vraie problématique.
Donc ça silencie les femmes, ça leur interdit, et les minorités, ça leur interdit de parler de plein de façons. Personnellement, je m'exprime très très peu sur Internet, à part dans les podcasts, exactement pour cette raison. Enfin, j'ai pas l'énergie de m'exposer, en fait.
Oui, bien sûr. Et si je peux recommander un documentaire pour les personnes que ça intéresserait, il y a le documentaire #salepute de
Myriam Leroy
et Florence Hainaut, ouais, qui détaillait vraiment très bien tous ces mécanismes, ce que ça fait aux personnes, parce que du coup, ce documentaire interviewe plein de femmes qui ont été victimes de ce genre de choses. Et c'est intéressant parce que justement, elles prennent l'angle de la liberté d'expression des femmes est attaquée. Et je pense que tu as raison, Mathilde, c'est le vrai enjeu, en fait, dans cette histoire. Et après, ce qui est intéressant, c'est que ces comportements de violence sont aidés aussi par les mécanismes mêmes des réseaux sociaux.
On va en parler, mais pour enfoncer le clou, quand même, les personnes qui commettent ces violences, qui cyberharcèlent, c'est des mecs en grande majorité.
Oui, alors j'ai pas de stats là-dessus.
On a un mal fou. Moi, j'ai cherché en long en large pour mon livre et aussi pour une enquête. Alors, c'est pour un type spécifique de cyberviolence qui était la publication d'images à caractère sexuel sans le consentement des personnes concernées. On a un mal fou à faire des chiffrages précis de qui et dans quel cadre, dans quel contexte publie ce genre d'image ou est violent. Néanmoins, moi, toutes les chercheuses que j'ai pu interviewer disent quand c'est des violences au sens large, comme celle qu'on peut voir contre des personnalités politiques, par exemple. Ça peut être vraiment un peu n'importe qui. Dès que c'est des violences dans un cadre de contrôle sexuel, si je puis dire, et je vais expliquer dans 3 secondes, c'est des hommes. Donc, par exemple, là, on a parlé beaucoup des cyberviolences au sens dans le discours public, mais il faut savoir aussi que les femmes, elles sont plus à risque de cyberviolence dans le cadre de violences conjugales. Le Centre Hubertine Auclert calcule que dans 9 cas de violences conjugales sur 10, il y a une composante numérique à l'affaire. Cette composante, ça peut être du harcèlement par texto ou message. Ça peut être que la personne va récupérer vos identifiants de comptes bancaires, de comptes de réseaux sociaux et donc contrôler ce que vous faites, voire contrôler votre argent, voire contrôler aussi vos comptes de la CAF ou ce genre de choses. Il y a aussi des violences qui, pour le coup, à mon sens, n'existent quasiment pas pour les hommes, sauf dans une affaire comme l'affaire Benjamin Griveaux, pour obtenir quelque chose, un retrait politique ou quelque chose, qui sont les expositions à caractère sexuel.
Contexte, l'affaire Benjamin Griveaux, c'est un ancien candidat à la mairie. Enfin, il était candidat à l'élection pour être maire de Paris, et il y a une vidéo qu'il avait tournée de son sexe en érection où il était en train de se masturber qui a été diffusée en ligne. Et donc oui, c'est, il a aussi été victime de diffusion d'images sans son consentement, d'images sexuelles sans son consentement, et finalement il s'est retiré de la...
Ce qui est assez rare en fait. Hein.
Oui,
il y a assez peu d'exemples...
De mecs à qui ça arrive, ouais.
En fait, ce type d'agression par image à caractère sexuel, que l'image ait à la base été tournée consensuellement par la fille pour l'envoyer par exemple à son mec ou que sais-je, ou qu'elle ait été prise sans son consentement, des données que j'ai, on va dire que dans 90% des cas, c'est pour viser des femmes. Et aussi, ce qu'on constate, notamment en discutant avec des chercheurs, on a fait une grosse enquête sur le sujet avec ma collègue Ingrid Bergo, dont... une version est sortie dans Le Guardian et une version plus longue en 4 épisodes est sortie dans Slate sur le revenge porn. Ce qu'on constate, c'est que pour les femmes, il suffit... Enfin, l'agression est juste de les exposer. Rien que ça, on considère que c'est horrible et tout, et on a réussi à leur faire violence. Et de fait, les victimes vivent ça comme des violences. Alors que les mecs, quand on fait ça, c'est jamais purement gratuit. C'est encore pour aller faire quelque chose d'autre. Par exemple, les faire chanter, leur soutirer de l'argent, leur soutirer quelque chose de politique. Donc, dans le cas de Benjamin Griveaux, par exemple, le faire se retirer de la course électorale. Les filles, c'est de nouveau, les filles et les femmes, c'est de nouveau une histoire de nier leur être, les diminuer, et le simple fait de les exposer comme en plus nous sommes, en tant que femmes, prises dans cette espèce de paradoxe horrible de la mère ou la putain, la vierge ou la putain, dès qu'il y a un contenu sexuel qui est mis en ligne, très vite on peut avoir des discours de victim blaming, parce que pourquoi pas, c'est ce que la société permet.
Et, oui, c'est-à-dire qu'on dit, t'avais qu'à pas te prendre en photo.
Voilà, ce qui en plus en fait est complètement faux quand on étudie vraiment le problème, et on constate que beaucoup de ces images ont été prises sans le consentement. Et moi, c'est une problématique qui me fait assez peur parce qu'elle a notamment beaucoup cours chez les plus jeunes, malheureusement. Et pareil, c'est une culture numérique, enfin, c'est une sous-culture numérique, donc qui est peu considérée. En plus, on est au croisement de deux types de criminalités qui ont du mal à être poursuivies par les forces de l'ordre, par manque de moyens, de considération, de tout ce que tu veux.
De formation,
criminalité numérique, beaucoup de mal à poursuivre. Et criminalité sexiste, on sait comment sont accueillies les victimes de viol, donc on sait même pas, si je puis le dire, désolée de le former comme ça, mais même pas un truc physique, mais uniquement par image ou par contenu en ligne, c'est encore moins bien considéré. Or, du côté des victimes, il y a déjà eu plusieurs fois des cas de suicide, tellement la jeune fille, parce que donc parfois ça touche des filles de 13-14 ans, ne savent pas comment se sortir de cette violence numérique qui en fait vient par vagues en plus.
Ne s'arrête jamais.
Ou alors, et là, c'est horrible à dire, mais parfois les filles ne le savent pas. Et donc, à la limite, tant mieux pour leur santé mentale, mais il y a quand même des gars qui font des trafics d'images à caractère sexuel de filles de leur région, de leur école, de machin, de bidule. Voilà.
Je voudrais conclure en parlant d'une étude qui avait été faite par le journal anglais Le Guardian à propos des commentaires qui étaient laissés sous les articles. Et ils avaient analysé 70 millions de commentaires postés sur le site depuis 2006. Et leur conclusion, c'était que les 10 journalistes les plus attaqués par les internautes étaient pour la majorité d'entre des femmes. Il y avait, parmi ces 10 journalistes, il y en avait 8 qui étaient des femmes. Qu'il y avait aussi 2 hommes qui étaient noirs. Et que 2 de ces femmes et l'un des hommes étaient gays. Et en revanche, les 10 journalistes du Guardian qui étaient les moins attaqués, c'était 10 hommes blancs. C'était la première partie de l'épisode 82 des Couilles sur la table. Dans la deuxième partie de cet entretien, on va comprendre comment fonctionne l'engrenage qui encourage au partage de contenus violents sur Internet. On va se demander ce que serait une modération adaptée, notamment une modération féministe, et comment discuter des algorithmes, des plateformes et des réseaux sociaux avec les jeunes garçons de notre entourage. Je vous encourage à suivre mes deux invités, Mathilde Saliou, l'autrice de Technoféminisme, et Lucie Ronfaux, qui tient entre autres la newsletter Règle 30. Et peut-être vous avez reconnu sa voix, car on l'a entendue dans des documentaires diffusés dans Programme B, un podcast de Binge Audio, notamment un que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Mort à la ligne, où Lucie Ronfaux se demande comment Internet et les réseaux sociaux ont changé notre travail de deuil et notre rapport à la disparition de nos proches. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes ces références, ainsi que celles citées pendant notre conversation sur le site de Binge Audio, binge.audio, grâce au travail de Naomi Titi, productrice de l'émission, qui fait aussi l'édition et puis le montage avec moi. À la prise de son, c'était Paul Berthiaud, à la réalisation, Quentin Bresson, à la communication, Lise Niederkorn et Jeanne Longuigny. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.